Eh bien allez,
bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, bon début de semaine, magazine d'actualité du lundi, partagé aujourd'hui avec Didier Vallet. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleuri de la biodynamie, poète des fleurs, des plantes, et depuis quelques semaines maintenant, on s'attarde sur la famille des ombellifères, et il y a deux semaines, on a terminé avec l'angélique, archangélique, et on était en plein voyage avec vous sur direction les steppes, et on était fauchés par le chronomètre,
oui, oui.
Et on était obligés d'arrêter net l'intervention. Qui a pris un peu d'espace hein, pour cette nouvelle saison. On a plus d'une vingtaine de minutes pour intervenir, mais je vois bien que vous êtes toujours à l'étroit hein, sur ce format, Didier.
Je suis un peu trop bavard, sûrement.
Un mot sur ce mois de novembre, sur ce que vous voulez, un billet d'humeur, Didier, ou pas du tout?
Le mois de novembre, que peut-on dire On commence à rentrer dans notre coquille, hein. On est comme les escargots, là. C'est l'hiver, la nature rentre sous terre, les feuilles déjà ont jauni, mois de novembre, à part les chênes, pratiquement toutes les feuilles sont tombées. Le chêne, il reste quelquefois tout l'hiver, hein, sauf s'il y a un grand coup de vent, mais il garde ses feuilles presque jusqu'à la poussée des nouvelles qui font tomber les anciennes. Donc on voit cette force qu'a le chêne, qui est quand même un arbre particulier un petit peu à ce niveau-là, puisqu'il garde ses feuilles mortes tout le temps. Et voilà, donc nous on fait un peu la même chose. Bon, on a les... avec l'âge aussi, on a les feuilles qui tombent un peu, mais, mais surtout, ben voilà, quand on travaille dans la nature en pleine saison, dès le printemps, on est un peu boosté par cette nature qui pousse, et nous, dans les plantes médicinales, bon, il y a à récolter, c'est vrai, mais il y a aussi tout l'entretien pour que les plantes, un petit pied de thym ne soit pas sous 50 cm d'herbe, parce qu'il n'aime pas du tout, il aime la lumière, donc il y a tout ce travail, donc toujours un petit peu... comme toi, David, qui est pressurisé dans ton travail au studio, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, ben, nous, on est dans un studio naturel, mais on a beaucoup de choses à faire. Et dès que le mois de novembre arrive, c'est vraiment là, en octobre, on a encore souvent, bon, cette année, on a eu un bel été indien jusqu'à la fin du mois. Disons, sur la première moitié du mois d'octobre, on a eu
très belle météo.
Un petit été. Et donc là, même s'il n'y avait pas beaucoup de pression, on s'est mis quand même pour préparer le sol avant qu'il pleuve de trop. Donc voilà, c'est le mois d'octobre, on est encore dans l'automne, et là, novembre, on commence à sentir vraiment que la vie est en train de rentrer à l'intérieur du sol, elle n'est plus à l'extérieur. Ça devient un peu inanimé, l'extérieur. L'herbe ne pousse presque plus, les arbres n'ont plus de feuilles. Donc il faudra attendre le mois de janvier pour commencer à voir des bourgeons repartir, les noisetiers fleurir, ainsi de suite. Donc voilà ma petite note d'humeur pour le mois de novembre.
Petit billet
c'est
d'humeur.
Que je me repose un petit peu.
Parfait. Et dans un petit peu plus d'un mois, on va retrouver quelques secondes de jour de luminosité à partir du 21 décembre. Hein,
à partir du 21 décembre, oui. Les jours rallongeront, mais là, on va vers...
On va patienter encore un peu.
On va vers les jours de plus en plus courts. Alors, il y a quelques jours, je parlais avec un neveu qui a fait une expérience assez intéressante, parce que Il est mécano, mais il allait pendant 8 hivers de suite, je crois, il allait en Finlande sur un circuit de conduite sur glace, donc à la limite sur le cercle polaire. en fait. Et donc, au mois de février, et il me racontait comment ça va, il restait qu'un mois. Mais les nuits étaient longues, puisqu'il y avait peut-être...
Deux heures de jour par...
Une heure de jour. Une heure. Donc, nous, on se plaint de temps en temps. J'entends des gens qui disent « Oh oui, mais il fait nuit de bonheur et tout ». On n'est pas trop à se plaindre par rapport à d'autres pays où le taux de suicide est très important, les dépressions quand même, parce que c'est un peu difficile. Mais par contre, ben voilà, ils ont vu des aurores boréales.
Ah oui.
Donc voilà, là, mois de novembre, on commence vraiment à sentir là que les jours raccourcissent, mais il faudra attendre la fin décembre. Pour que ça commence à rallonger. Alors, nos plantes...
Alors, on va faire une petite respiration. C'était une belle introduction, pas un billet d'humeur, on ne peut pas appeler ça comme ça, mais en tout cas, un petit point quoi, saison,
oui,
Didier.
Oui, c'est important, parce que de plus en plus, nous vivons en dehors des rythmes. On est en voiture, la voiture est chauffée, on se rend pas compte forcément qu'il fait froid dehors. On est dans des appartements bien éclairés et on a tendance à plus voir ces... là, on se rend compte, on sort du travail, il est 5h30, il fait pratiquement nuit, donc on se rend compte un petit peu, mais c'est pas grave, parce qu'on a l'éclairage, on va chez soi, on a l'éclairage, donc on se coupe un peu de l'environnement, donc c'est bien de temps en temps de rappeler ces rythmes que quelquefois les enfants n'en ont même pas la connaissance, et encore, on habite dans l'Aveyron. Oui. On habite à Villefranche-Rouergue.
Oui, on voit les feuilles tomber.
Donc, on a quand même... Mais imaginez, pensez à ces Parisiens ou même simplement des Toulousains qui sont dans le... qui ne voient plus tout ça. Donc, voilà, c'est un peu important quand même.
Après la musique, on va reprendre le chemin des steppes, peut-être en tout cas parler de l'Angélique Angélique.
Ben oui, justement, j'étais en train de parler de la Finlande.
Ah, ben voilà, on y retourne, puisqu'on s'était arrêté là il y a 15 jours, après la famille des labiés, des rosacées, des composés.
Des composés,
famille,
bravo,
des composés.
Alors là, ça y est,
je l'ai travaillé toute la semaine.
Tu as ton brevet, là.
On s'intéresse à la famille des ombellifères, et donc... dans cette famille, il y a l'Angélique Angélicus.
Voilà, donc...
Après la musique, on en parle, Didier.
Oui,
on fait une petite respiration et on revient.
Il pomme le dent, il pomme le dent.
s'arrange à la fin à peu près. Tout s'arrange pas comme je le croyais.
Allez, vous venez nous rejoindre, l'édition du lundi avec Didier Vallet, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, rendez-vous bimensuel intitulé « Des plantes, des hommes et de la biodynamie ».
Et la biodynamie, voilà, c'est la manière que les hommes, dont les hommes peuvent s'occuper des plantes, comme un adulte peut s'occuper d'un enfant, d'un bébé, d'un enfant, pour le faire devenir adulte, eh bien, l'homme a sa charge, en fait, de s'occuper de la nature. Oui, la nature peut s'occuper... Elle peut aller toute seule, elle n'a pas besoin de l'homme, mais l'homme peut intervenir pour amener la nature dans une certaine direction. Et la direction qui n'est pas celle dans laquelle on fait aller la nature actuellement. Hein. C'était impressionnant. Je suis allé passer quelques jours de congé en Bretagne, donc j'ai traversé un peu quelques régions de France, et je voyais beaucoup de forêts. Alors les forêts sont très belles. Hein. C'était fin octobre, disons, donc des couleurs magnifiques. Mais alors des forêts qui ont été plantées, et en fait on a l'impression qu'elles ne sont pas utilisées, ces forêts. C'est-à-dire que on laisse pousser, il n'y a pas de filière bois, donc c'est déjà bien sûr qu'il y a des arbres qui poussent, ça mange le CO2, ça redonne de l'oxygène. Voilà, c'est comme si l'homme replantait des choses et qu'après il s'en occupait plus. Donc voilà, c'est l'homme, les plantes, des hommes et la biodynamie qui est une méthode qui permet de s'occuper des plantes, mais selon les lois de la nature. Pas selon les lois humaines, mais selon les lois de la nature. Donc il faut essayer de les redécouvrir, ces lois de la nature. C'est ce que j'essaye de vous partager. Je ne suis qu'en chemin moi-même. Hein. C'est tous les jours, je découvre, je vois des choses en regardant les plantes. Mais j'essaye de vous partager un petit peu ce côté d'observation des plantes qui nous permettent ensuite de savoir s'en occuper, comme on ne peut pas s'occuper d'un animal si on ne sait pas bien l'observer. On ne peut pas s'occuper d'un enfant si on n'est pas vraiment attentif à ce qu'il fait. Chaque enfant est différent, chaque plante est différente. Donc il faut exercer ce regard assez fin qui n'est pas du tout dogmatique, qui n'est pas axé sur des théories qu'on pourrait avoir, des théories intellectuelles, mais sur l'observation de la nature. Et c'est des choses, je crois, que les anciens... j'ai connu dans ma jeunesse de vieux paysans qui savaient regarder à quelle hauteur les oiseaux, tel oiseau faisait son nid, qui disaient « Ah ben s'il fait son nid à telle hauteur, il va faire tel temps » ou des choses comme ça. Tout un tas d'observations qui s'étaient transmises pendant des décennies, voire des siècles.
Par l'observation de la nature.
Par l'observation de la nature. Alors, bien sûr, la nature est de plus en plus changeante. Donc, il y a des choses qu'on pouvait observer avant qui ne marchent plus maintenant. Mais il faut réapprendre à observer la nature. Et on n'apprend pas ça aux enfants dans les écoles.
Ah oui, non. Oui, non.
On n'apprend pas ça aux enfants dans les écoles. Les leçons de choses... il n'y en a plus quelque part, on ne va pas les emmener dans la nature, regarder, et pourtant ils sont très intéressés, ils sont très très intéressés dès que Je vois, nous, dans les jardins, on organise beaucoup de visites. Donc, quand il y a des enfants, tout de suite, ils partent. Si on les aiguille un petit peu, ils partent vraiment à fond là-dedans. Et ils sont, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, pour la biodynamie, c'est cette approche. Alors après, il y a une méthode agricole, hein, bien sûr, mais déjà, en premier lieu, cette approche très, très sensible de la nature par l'observation.
Vision agricole avant d'être une méthode, hein, aussi, vous dites ça.
Oui.
Une vision de l'agriculture.
C'est une vision de l'agriculture, mais il y a une méthode qui va avec, hein, quand même.
Avec notamment les préparations, vous
voilà,
en avez déjà
parlé. Voilà, avec les préparations biodynamiques et ainsi de suite.
Donc, allez, les ombellifères et l'angélique archangélicus. Voilà.
Alors, les ombellifères, nouveau nom, comme d'habitude, les apiacées. Bon, c'est... voilà. Alors, l'angélique, donc on en avait parlé, c'est une ombellifère. Toutes ces ombellifères, souvent je pars d'une plante, mais je vais parler d'autres ombellifères pour comparer, ainsi de suite, pour voir les traits communs, les traits différents. Et l'angélique, je l'aime particulièrement, alors même si elle n'est pas spontanée dans nos contrées, parce que c'est une plante qui est vraiment qui pousse à plus de 2 mètres de haut, qui fait des fleurs, des ombelles qui font au moins 20 cm de diamètre, voire plus quelquefois, et avec des feuilles immenses. Mais très découpé, par contre. C'est pas comme la feuille de rhubarbe qui est grande et entière. Là, c'est une feuille très, très découpée. Comme toutes les ombellifères, hein. Vous voyez le persil, par exemple. La feuille du persil est très découpée. La feuille du céleri est très découpée. Cette famille, à part quelques ombellifères qui poussent dans des marais, je rappelle que plus on est dans l'eau, plus les feuilles sont rondes, et plus on a la lumière, plus les feuilles sont découpées. Hein, ça, c'est vraiment une loi de la nature. On ne sait pas l'expliquer scientifiquement, mais peut-être parce qu'elle a besoin de plus de surface pour capter le peu... Il y a moins de lumière, donc elle a besoin de plus de surface de feuilles pour faire la photosynthèse. Hein. Et donc, cette angélique, elle est, bon, c'est une plante, quand elle est en fleurs, c'est impressionnant. Et je me rappelle, il y a 30 ans, je crois, j'avais un joli carré d'angélique, et donc elle était en fleurs, ça devait être le mois de mai, elle était en fleurs et il a neigé. Ça arrive, hein, dans nos régions, qu'on a des neiges très tardives. Et alors, ces grandes ombelles, imaginez un parapluie. Quand il neige, il peut se couvrir d'une couche de neige importante, si la neige est collante, comme les branches des sapins peuvent être tout blancs de neige. Eh bien là, ces angéliques se sont chargées de neige sur les fleurs, sur les feuilles, et se sont cassées la figure par terre, tellement il y avait de poids. Eh bien, j'ai dit la dernière fois, je crois que les tiges sont creuses. C'est pas des tiges pleines comme une branche d'arbre. À l'intérieur, il y a du creux. Donc, ça a plié. Comme il y a du creux, ça a plié. Eh bien, elles sont pas mortes. Elles ont continué de fleurir tout en étant pliées, comme ça, couchées par terre. Et les graines sont venues à maturité. Il y a une force vraiment, disons, moi je ressens une force étonnante dans cette plante. Vraiment.
Un mot sur ses propriétés, parce qu'on n'en a pas parlé
encore. On n'en a pas encore parlé. Alors, cette force, on voit qu'elle est très. Que c'est une plante très tonique. Alors, dans les cas de fatigue. Alors, comme toutes les ombellifères, elles vont agir dans la sphère de la digestion. On avait parlé déjà de la carotte. Eh bien, la carotte, elle va agir dans la sphère du foie, de la digestion, mais plus le foie. Là, on va agir, avec l'angélique, on va agir au niveau estomac-intestin. On fait une liqueur d'angélique. Bon, il y a un peu d'alcool, faut pas en boire de trop, mais c'est très bon, avec les tiges d'angélique qu'on met à macérer dans l'alcool. Après, on fait un... On met du sucre pour faire un sirop, on met de l'eau, bon, on fait une liqueur. Et ça, c'est après un repas, une cuillère à café de cette liqueur, c'est vraiment, ça libère très bien. Donc, l'angélique, elle est digestive et puis tonique, stimulante. Et c'est surtout les racines qu'on utilise. Bon, pour la liqueur, c'est plutôt les tiges, mais en infusion, on récolte les racines. Donc, il me semble que je l'ai déjà dit, c'est très souvent, les plantes, ces ombellifères sont bisannuelles. C'est-à-dire, la première année, je ne sais pas si, parmi les auditeurs, je pense quand même qu'il y en a qui ont du persil dans leur jardin. La première année, il fait plein de feuilles. La deuxième année, au printemps, paf, il monte. Il fleurit, il graine et il meurt. Et beaucoup d'ombellifères font la même chose. Il y en a qui sont seulement annuels, mais l'angélique, elle est bisannuelle. Donc la première année, elle va faire de la tige et des feuilles. Là, on peut récolter les racines, on peut récolter les tiges pour les faire confire, pour faire de la liqueur ou des choses comme ceci. Et la deuxième année, elle va monter à graines et là, on peut récolter les graines. Voilà. Donc, on peut utiliser les graines aussi en infusion et très, très souvent, bon, là, on va sûrement peut-être pas avoir le temps aujourd'hui d'en parler, mais c'est souvent les semences qu'on utilise en infusion ou qu'on utilise dans la cuisine, dans ces... les plantes de cette famille, comme le fenouil, comme la coriandre, comme la nette... c'est souvent, quand vous achetez un petit pot de coriandre dans le commerce, c'est des graines qu'il y a. Elles sont toutes rondes, mais c'est des graines. Et pareil pour la nette. Quand on la frais, quand il est frais, qu'on en a dans le jardin, on peut utiliser les feuilles. La coriandre est très utilisée dans les pays du Moyen-Orient, qui l'utilisent beaucoup plus que le persil, pour des plats... bon, je ne connais pas forcément la cuisine moyenne orientale, mais je sais que c'est beaucoup utilisé quand même. Donc voilà. Ce que je voudrais revenir aussi sur cette angélique, donc essayer d'imaginer ces grandes ombelles qui ont 20 ou 30 cm de diamètre. Bon, disons 20 cm, ça peut arriver que ce soit plus grand, mais déjà 20 cm, ça fait des belles fleurs. Elles sont couvertes d'insectes. C'est le fenouil fait la même chose. Ce sont vraiment des plantes qui attirent beaucoup, les fleurs attirent beaucoup des insectes, comme les gendarmes, ces petits insectes rouges. Il y a tout un tas d'insectes qui viennent là-dessus.
Des insectes nuisibles ou...
Non, ils font pas de mal, mais par contre, on va pas voir les papillons.
D'accord.
On va pas voir des butineurs. On va pas voir les abeilles, on va pas voir les papillons. On voit d'autres insectes, alors... Ça, je sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui les attire dans cette plante ? Est-ce que c'est simplement la piste d'atterrissage ? Et donc, ils ont une grande plateforme là pour regarder au loin. Mais on va pas avoir des papillons comme pour les composés, par exemple, les quinacées qui attirent beaucoup les papillons, ou les labiers qui sont très très mellifères, toutes les lavandes, romarins et tout, là où on a un nuage de papillons aussi autour. Donc, soit des plantes nectarifères, c'est-à-dire qui donnent du nectar, attirent beaucoup les papillons, les abeilles, les plantes qui donnent du pollen, mais là, visiblement, il n'y a pas beaucoup de pollen, on ne fait pas du miel de fenouil, on ne fait pas du miel d'angélique. J'en ai jamais entendu parler, disons. Donc, je pense qu'on continuera dans 15 jours,
oui.
Cette famille.
Angélique, toujours, et ombellifère en tout cas.
Ombellifère encore, oui, j'ai encore plein de familles à parler, mais là, on va encore rester un peu sur les ombellifères.
Des... Plantes, des hommes, de la biodynamie, rendez-vous et rubrique animée par Didier Vallet. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour la suite de la découverte de cette famille des ombellifères sur l'antenne de CFM. Merci Didier, à dans 15 jours,
belle journée. À dans 15 jours David.
CFM Villefranche, le mag.